Bonjour, je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, j'aimerais vous apporter les salutations de mon assemblée. Je suis pasteur d'une église dans le sud de la France, à Grasse. C'est une petite ville qui n'est pas très loin de Cannes, sur la côte d'Azur, dans l'arrière-pays. Et voilà, c'est touchant. J'ai vraiment été heureux de vivre le début de ce culte avec vous, ce temps de Sainte-Seine, et puis aussi le séminaire d'hier. C'est touchant de voir que de par le monde, on a des frères et sœurs qu'on ne connaît pas et on sera tous ensemble au ciel. Ça, c'est extraordinaire. Mais dès à présent, le Seigneur veut nous réjouir aussi en nous montrant qu'il y a des liens qui nous unissent, qui sont plus forts que tout ce qui peut exister dans le reste de la société. Merci pour votre accueil, pour votre accueil chaleureux. Et je me réjouis de vous voir là, de tous les enfants, les ados que j'ai vus et aussi... De l'accueil de Marion et de Raph qui m'ont accueilli chaleureusement chez eux. Et voilà, c'est vraiment un bienfait d'être parmi vous ce matin. Et je vous propose maintenant d'ouvrir nos Bibles et on va lire ensemble le chapitre 3 de la deuxième lettre aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. De Corinthiens chapitre 3, on va lire ce chapitre qui est pas très long. Je lis dans la traduction second 21 qui correspond aux petites bibles que je vois posées sur les dossiers de vos bancs. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou alors de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux ? En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous propose de voir quelques encouragements, quelques enseignements de ce passage. Bien sûr, on pourrait dire beaucoup plus de choses que ce qu'on va voir maintenant, tellement la parole est riche, mais on va essayer de voir quelques éléments. D'abord, le contexte. La deuxième lettre aux Corinthiens, et de ce point de vue-là, elle ressemble à la première lettre aux Corinthiens, est une lettre que Paul écrit à une église qu'il chérit particulièrement, une église dans laquelle il a passé beaucoup de temps, une église qu'il a fondée, lui et ses collaborateurs, pour laquelle il a souffert. Une église qui a été fondée dans une ville, de l'Antiquité qui était réputée pour sa débauche. Corinthe était un port où il y avait énormément de trafic, de richesses, de passages et donc d'influences bonnes et mauvaises. Corinthe était réputée pour ses temples et autour de ses temples, il y avait une prostitution sacrée, c'est-à-dire des prostituées hommes et femmes qui, par cette activité, finançaient les cultes païens. Donc cette ville a été l'objet d'un combat spirituel fort. Paul a payé cher le fait d'être missionnaire de Christ à Corinthe. Et de son travail, le Seigneur a fait naître une église importante à laquelle il a écrit à plusieurs reprises. Il ne nous est parvenu parmi les lettres qu'il a écrites que deux lettres, 1 et 2 Corinthiens, mais il y a certainement eu une troisième et peut-être une quatrième lettre que le Seigneur ne nous a pas fait parvenir parce que ce n'était pas utile qu'elle nous parvienne. Et dans ces lettres, il y a à la fois l'amour de Paul pour cette église qu'il a connue, qu'il a aimée et que le Seigneur a fondée à travers son ministère. Et il y a aussi de la douleur, de la tristesse, une tension qui nécessite que Paul défende son ministère, exhorte les Corinthiens en leur rappelant combien il les aime et combien les bruits qui couraient parmi les Corinthiens à propos de Paul et de ses collaborateurs étaient injustifiés. Et on le voit déjà dans la première lettre, et ça continue dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul est obligé de se défendre. Parce qu'une partie des Corinthiens ont été ingrats à l'égard de l'apôtre, à l'égard de ses collaborateurs, et lui reprochaient des choses, lui suscitaient des rivalités. Si vous vous souvenez des versets de la première lettre aux Corinthiens, il y en a qui disaient « Ah oui, Paul, c'est pas mal, mais moi je préfère l'enseignement de Pierre, ou moi je préfère l'enseignement d'Apollos, ou moi je suis attaché à Jésus-Christ. » Et Paul leur dit « Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que l'Église de Christ est divisée en leaders, concurrents? Vous confondez la vie d'Église avec les partis politiques qui existaient dans la vie des cités grecques de l'époque? Ou alors... est-ce que ces partis politiques doivent s'exprimer aussi dans l'Église et on doit créer des rivalités entre serviteurs de Dieu? C'est absurde. Le corps de Christ ne peut pas être divisé et ce n'est pas ni Paul, ni Apollos, ni Pierre qui est mort pour vos péchés, c'est Jésus-Christ. Et moi, je suis un serviteur, mais néanmoins, il se trouve que c'est par mon ministère que votre Église est née. Donc, respectez ce ministère. Ne me suscitez pas de l'hostilité. Alors que dans mon cœur, pour vous, il n'y a qu'un amour et un amour sincère devant le Seigneur. Et voyez, c'est dans cet état d'esprit-là, il y a une tension. On ne comprend pas les deux lettres aux Corinthiens si on ne comprend pas cette tension, amour et en même temps tristesse, d'une forme d'ingratitude de la part de l'Église de Corinthe à l'égard des Corinthiens. Et c'est pour ça qu'il commence ce chapitre en disant « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ?» Voyez, il est obligé de s'excuser, de dire « Mais attendez, je vous explique de quelle manière je vous aime, quel est mon ministère ?» Parce que certains parmi vous, alors tous les Corinthiens n'étaient pas forcément ingrats à l'égard de Paul, manifestement il y en a qui étaient reconnaissants et qui étaient en communion avec l'apôtre, mais il y en a d'autres qui lui suscitaient des difficultés ou des rivalités, et il est en train de dire « Mais alors, est-ce qu'il faut qu'on se recommande ?» Et il essaye de défendre son point de vue et de leur montrer qu'il a été honnête, il a été transparent et il a servi de toutes ses forces et de tout son cœur. Et une des preuves qu'il montre de l'authenticité de son ministère, c'est de dire ben, « Vous êtes une preuve de l'œuvre accomplie par mon ministère d'apôtre de la part de Dieu. » Et Jésus, dans l'Évangile, il dit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom du Père témoignent en ma faveur. » En fait, un des principes de l'évangile et de la foi chrétienne, c'est que si on est vraiment enfant de Dieu, ce qu'on fait doit témoigner du fait qu'on est enfant de Dieu. Si vous pensez que vous êtes chrétien, mais que rien dans votre vie ne montre que vous êtes chrétien, peut-être que vous n'êtes pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est être bouleversé par la rencontre de Jésus-Christ qui nous jette à genoux au pied de la croix, qui nous fait pleurer sur notre péché et qui nous transforme par le Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu pour qu'on ressemble à Jésus-Christ. Et ça, ben c'est un bouleversement existentiel qui transforme mon caractère et qui me conduit à ressembler à Christ, non pas par mes efforts, non pas par ma capacité, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Et Paul, il est en train d'écrire aux Corinthiens en leur disant « Mais la preuve que ce que nous avons fait vient de Dieu, mais c'est vous-même. Cette église qui existe au milieu de cette ville païenne invraisemblable, vous êtes enfants de Dieu. Et ça, c'est le Seigneur l'a permis à travers mon ministère et celui de mes collaborateurs. Ne remettez pas ça en cause. Si vous descendez en flamme, l'apôtre Paul, vous êtes en train de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Parce que c'est à travers son ministère que vous avez connu Christ. C'est absurde. Vous êtes vous-même une preuve, dit-il aux Corinthiens, de l'authenticité de mon ministère. On reconnaît l'arbre à ses fruits, comme nous dit l'Évangile. Et les Corinthiens étaient le fruit du ministère de Paul. Question. Quel fruit portez-vous ? Quel fruit portons-nous ? Quel fruit, moi qui suis pasteur, je porte dans ma vie de tous les jours ? Est-ce que je suis cohérent entre la foi que je professe le dimanche au culte et la façon dont je vis ma vie de tous les jours ? Est-ce que ça se voit que je suis chrétien ? Ou est-ce que si quelqu'un de mon entourage qui est en dehors de l'église apprend que je suis chrétien, il me dirait « Ah ben dis donc, on dirait pas ». Je suis né dans une famille chrétienne et mes parents m'ont toujours emmené à l'église et c'est vraiment un privilège, une richesse extraordinaire. Mais ne croyons pas que parce que nos enfants sont dans des familles chrétiennes qui sont nécessairement chrétiens ou qui vont logiquement, obligatoirement devenir chrétiens. C'est notre premier champ missionnaire. Prions pour eux que le Seigneur touche leur cœur et prions qu'ils voient en nous, adultes de l'église, des adultes qui leur donnent envie de ressembler à Christ parce qu'à travers nos vies, malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré nos défaillances qui parfois nécessitent que nous demandions pardon, y compris à nos enfants, eh bien, qu'ils puissent discerner Christ et que le Seigneur touche leur cœur à salut à travers notre témoignage. Nos enfants sont notre premier champ missionnaire. Quels fruits portons-nous autour de nous ? Lorsque j'ai fait mes études, après mon bac, je suis parti loin de la maison, comme beaucoup d'étudiants, parce que l'endroit où étudier n'était pas près de chez moi. Et moi, en plus, j'étais content de m'éloigner un peu de ma famille. J'étais dans une famille nombreuse et j'avais besoin un peu d'aller voir le monde. Alors, c'était pas très loin de chez moi, le monde. Hein, c'était 150 ou 200 kilomètres. Mais en fait, je rentrais chez moi seulement quand l'internat fermait. Et pendant cette période d'études, je me suis vraiment, vraiment éloigné du Seigneur. Et le Seigneur a fini par m'arrêter en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de dire que tu es chrétien, parce que si tu vis de cette manière-là, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vivre comme ça. » Ce n'est pas que la foi soit une liste de règles, il faut un truc contraignant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais si tu aimes vraiment Jésus-Christ, ça te transforme. Sinon, ne dis pas que tu aimes Christ. J'étais dans la cour avec un collègue et on faisait des choses pas possibles. Je vais pas tout vous raconter, mais c'était vraiment pas beau et très loin de la foi. Et il voit passer un autre de nos collègues de classe qui était catholique pratiquant. Et nous, on était donc côte à côte et il le voit passer. Il me dit « Comment il fait pour être comme nous, lui qui est chrétien ?» Et moi, je lui dis « Mais moi aussi, je suis chrétien. » Il fait « Non, mais tu vois bien ce que je veux dire, l'amour du prochain, tout ça. » Ouh là 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 là, la claque ! La nullité du témoignage ! Vous voyez, le Seigneur, il peut nous parler parfois par des gens qui ne sont pas chrétiens et nous remettre à notre place et nous enlever nos illusions. Quels fruits portons-nous ? Paul montrait à une partie des Corinthiens que les fruits qu'il portait de dissension, de calomnie, de tension, n'étaient pas des fruits à la gloire du Seigneur qui venaient du Saint-Esprit. Mais que eux, en tant qu'Église, en revanche, étaient un fruit béni du ministère de l'apôtre Paul. On a un thème dans ce chapitre 3 qui évoque l'écrit, quelque chose d'écrit. Et ce thème, il revient avec plusieurs mots qui en français sont tous traduits par lettre, mais qui en grec correspondent à deux mots. La lettre dans le sens de j'écris une lettre, alors je sais que ça n'existe plus d'écrire des lettres, avec un stylo dans du papier qu'on met dans une enveloppe, on colle une petite image en haut qui s'appelle un timbre, on met l'adresse et très longtemps après, ça arrive à la personne, peut-être. Donc, bon, voilà. Et en fait, 2 Corinthiens, c'est une lettre qui a été écrite dans ce sens-là par l'apôtre à l'église de Corinthe. Et puis, il y a le mot lettre en français qui est simplement le symbole qu'on utilise pour composer des mots. D'accord ? Dans l'alphabet, les lettres de l'alphabet. Dans notre texte, les deux s'appellent lettres, mais en réalité, il y a un mot grec qui correspond à épistolé, qui a donné en français le mot épître, qui est un vieux mot français pour dire une lettre, et puis gramma, là c'est le texte qu'on écrit avec un stylo ou avec un clavier, et qui est composé de lettres. Et ces deux termes, malgré tout, bien qu'ils soient différents, ils ont un sens proche parce qu'ils renvoient à la notion d'écrit. D'accord ? Et par exemple, dans le verset 1, il est question de lettre de recommandation. Dans le verset 2, il dit « Vous êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. » Au verset 3, « Vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère. » Au verset 6, « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Au verset 7, « Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. » Donc vous voyez le terme de l'écriture, de la lettre, écrite est vraiment présent dans ce chapitre 3. Et en fait, il y a aussi, même au verset 15, une allusion qui n'utilise pas le mot « lettre », mais qui est aussi une allusion à l'écrit. Le verset 15, il est question des écrits de Moïse. Donc on est encore dans le thème de quelque chose qui a été écrit. D'accord ? Et puis, sans parler du fait que ce texte, il est contenu dans un ensemble qui s'appelle lui-même une lettre, la deuxième lettre aux Corinthiens. Donc le thème de la lettre est vraiment très très présent. Et j'aimerais voir avec vous déjà désamorcer un malentendu qu'il peut y avoir sur l'expression « la lettre tue, mais l'esprit vivifie » au verset 6. Parfois, ce verset, sorti de son contexte, est mal compris et il est compris dans un sens proverbial courant, c'est-à-dire « ne nous attachons pas à la lettre d'un texte, mais cherchons plus, parce que ce serait stérile, mais cherchons plutôt à rechercher l'état d'esprit de ce texte. » Par exemple, Montaigne a écrit un livre qui s'appelle « L'esprit des lois », dans lequel il nous encourage, non pas à être comme des idiots en lisant le code pénal et à appliquer au premier degré la loi, mais à discerner quel esprit a inspiré la loi pour être dans un pays où la loi serait utile à la justice et ne serait pas là juste pour sanctionner bêtement les gens. Donc, l'état d'esprit, il incitait à... Montaigne ne commentait pas la Bible, il était en train de parler du projet de vivre ensemble, de la société, etc. Il fait partie de ces philosophes qui ont précédé dans notre pays l'idée de démocratie et de république. Et il invitait à réfléchir sur ce sens-là en disant « attention, derrière un texte, il faut discerner l'état d'esprit du texte. À quoi sert ce texte? Quel est son but ?» Et on pourrait se dire « c'est une belle idée qui finalement pourrait également s'appliquer à notre lecture de la Bible. Discernons quel est l'état d'esprit du texte et ne nous attachons pas à une lecture qui serait trop fermée. » Alors c'est une bonne idée, mais ce n'est pas du tout ce que dit le texte, parce que le contexte immédiat ne nous montre pas du tout que l'argumentaire de Paul va dans ce sens. Donc je ne dis pas que l'idée de Montaigne est fausse, mais je dis que la lettre tue mais l'esprit vivifie, je ne peux pas m'en servir pour appuyer cette idée que je viens d'exprimer. Parce que ce n'est pas ce que dit le texte que nous avons lu. Si on applique d'ailleurs cette idée qu'il ne faut pas respecter la Bible à la lettre, mais qu'il faut essayer de discerner l'esprit, on risque de s'éloigner assez fort de ce que veut dire le texte et de relativiser son autorité. Je ne vais pas refaire l'exposé d'hier, mais c'était un des thèmes. Si ça vous intéresse, je vous encourage à écouter les enregistrements. Une fois, j'ai assisté à une prédication d'un représentant de la Fédération protestante de France qui se dit protestant. Et dans sa prédication, qui était un exposé brillant, mais qui n'avait rien de spirituel à mon sens, il a dit ceci: la Bible est un écrit, elle ne dit rien, c'est à nous de l'interpréter. Si j'avais été debout, je serais tombé par terre devant une telle bêtise. Et j'étais assis, heureusement, et j'aurais dû peut-être me lever et sortir, tellement j'étais en désaccord avec cette affirmation. Ah bon ? Parce que c'est un écrit, ça ne dit rien ? Essaye de dire ça au trésor public quand tu reçois ta déclaration d'impôt. C'est un écrit, ça ne dit rien de précis, c'est à moi de l'interpréter. Ah bon, on va voir si ton percepteur d'impôt va être vraiment d'accord avec cette vision des choses. Mais qui a dit que les écrits ne disaient rien ? Au contraire, c'est complètement faux de dire ça. Je dirais même que les écrits disent les choses de façon plus précise que ce qu'on dit à l'oral et qui peut être oublié ou mal compris. Donc, on ne peut pas utiliser ce texte, ce verset, pour dire la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous savez, hein, on lit la Bible, mais la prenez pas trop au sérieux. Hein. Il faut discerner en vous-même, avec vos émotions, l'air du temps. On va voir ce qu'on va comprendre. Ce qui ne nous convient pas, on le jette à la poubelle. Ce n'est pas ce que dit ce texte. Vraiment pas. Il y a une autre possibilité de tordre le texte en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, ça pourrait vouloir dire « Le Saint-Esprit me parle maintenant directement, maintenant que je suis chrétien, plus besoin du texte biblique, puisque la lettre tue. Je laisse tomber la lettre, l'esprit va me vivifier directement. » Et là, on va tomber dans un espèce de mysticisme hérétique, c'est-à-dire contraire à la foi biblique, qui va me faire penser que je suis en relation directe avec le Saint-Esprit et ce que je vais ressentir est suffisant pour discerner la volonté de Dieu. Rien dans la Bible ne nous permet d'accepter ce genre de démarche et au contraire, c'est exactement l'inverse qui est recommandé. Vous voulez être sûr que Dieu vous parle, lisez la parole de Dieu. Si vous vous reposez sur vos émotions, vos sentiments du moment ou votre perception en disant « c'est l'Esprit qui me parle », peut-être que dans certains cas, l'Esprit va vous envoyer des signaux et vous parler. Franchement, mon collègue dans la cour, la claque qu'il m'a mis en disant « non mais toi, t'es pas chrétien », je pense que le Saint-Esprit y était pour quelque chose. En me disant « tu vois, tu crois être chrétien, t'es un rigolo, ton témoignage est nul ». Donc le Saint-Esprit, je ne dis pas qu'il est limité et qu'il ne peut pas nous parler dans les événements de la vie. Mais l'essentiel de son message, il est là. Il a inspiré à travers les siècles ce merveilleux livre qui nous dit qui est Dieu et qui nous dit qui nous sommes et qui nous dit ce que Dieu attend de nous qui sommes ses enfants. Lisons ce livre. Ce verset, vous ne pouvez pas l'invoquer en disant « la lettre tue, je vais arrêter de lire la Bible ». Ce serait tordre le sens du texte et dire le contraire de ce que dit la Bible. En fait, l'opposition « lettre-esprit » renvoie à un sens plus large et plus profond qui est développé par Paul dans tout le passage. Il y a une opposition entre deux choses qui apparaissent clairement dans ce passage. Un ministère de la condamnation et un ministère de la justice. Une opposition qui s'exprime comme suit. Au verset 3, table de pierre d'un côté, table de chair et des cœurs de l'autre. Au verset 5, une nouvelle alliance. Au verset 14, une ancienne alliance, c'est-à-dire allusion à l'Ancien Testament. Au verset 6, la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire qui donne la vie. Au verset 7, le ministère de la mort. Au verset 8, le ministère de l'esprit plus glorieux. Au verset 7, une gloire passagère qui a perdu son éclat, au verset 10, alors qu'une gloire supérieure, toujours au verset 10, qui correspond à la gloire du Seigneur, au verset 18. Encore ministère de la condamnation et ministère de la justice au verset 9, et une opposition entre passager et permanent au verset 11. Donc, si on considère tous ces éléments, la lettre qui tue, c'est la loi de l'Ancien Testament, la Torah, écrite par Moïse. Est-ce que cette lettre était mauvaise ? Non, elle n'est pas mauvaise. Pourquoi elle tue ? Elle tue parce qu'elle dit à tous les êtres humains, vous êtes pécheurs, vous êtes séparés de votre Créateur à cause de votre péché. Et si le Saint-Esprit ne vient pas toucher votre cœur, vous jeter repentant au pied de la croix de Christ, vous êtes mort pour toujours. Voilà pourquoi la lettre tue. Cette lettre qui tue, c'est ce que Paul explique dans Galates. La loi est bonne, mais elle a été donnée comme un précepteur, comme un guide qui nous conduit à qui ? Qui nous conduit au seul qui peut nous donner la vie, à Jésus-Christ. Voilà la lettre qui tue et l'esprit qui vivifie. La condamnation du péché qui est là, qui est dans la Bible, qui est bonne, qui fait partie de l'Évangile, qui est ce revers de la médaille, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous condamnés en raison de notre péché. La bonne nouvelle, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, si nous confessons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, cette condamnation est tombée sur lui, à notre place. Et en retour, nous recevons la justification, la justice que méritait sa vie parfaite. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Il a pris sur lui les conséquences de nos péchés et il nous donne les conséquences de sa vie parfaite. Et Dieu accepte de frapper son Fils à notre place. Ce qu'annonçaient tous les sacrifices de l'Ancien Testament, Jésus l'accomplit parfaitement à la croix. C'est le sens de cette parole, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Christ sait très bien ce qui lui arrive. Il le dit à voix haute pour nous montrer ce qu'il est en train d'accomplir. Frapper par la justice de Dieu, pour que nous soyons à travers le sang de Christ, vus avec les qualités et la justice de Christ que nous n'avons pas naturellement. Et ainsi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme on l'a lu tout à l'heure, comme Jonathan nous l'a lu. Donc cette lettre qui tue, c'est la lettre qui dénonce et qui révèle le péché des hommes pour leur dire « Moïse, c'est pas suffisant pour être sauvé, les amis ». Moïse est juste là pour vous dire, vous êtes pécheurs. Qui, dans l'Ancien Testament, a réussi, en respectant la loi, à avoir la vie éternelle ? Personne ! Personne ! Parce que personne ne peut arriver à produire une vie parfaite, entièrement agréable à Dieu. Déjà, on a hérité cette situation et cette posture de nos parents, et on ajoute nous-mêmes tous les péchés qu'il faut pour être éprouvé par Dieu. Par opposition à cette lettre qui tue, mais dans la continuité de cette lettre qui est nécessaire pour nous montrer que nous sommes dans une impasse qui nous tient éloignés de notre Créateur et qui fait que si nous ne nous réglons pas notre vie avec notre Créateur, il sera notre juge. Mais si Christ est mort pour mes péchés, alors les choses changent et il y a un Saint-Esprit qui vivifie, qui me donne la vie, qui me régénère. La nouvelle naissance, c'est un miracle que Dieu produit dans la vie de ses enfants par le Saint-Esprit. Il me fait naître de nouveau, il me convainc de péché, il me donne la foi pour confesser que Christ est mon Sauveur et Seigneur. Je ne mérite rien. Je reçois tout gratuitement. Voilà l'Esprit qui vivifie. Mais vous voyez que cet Esprit, il est toujours en rapport avec une lettre écrite, qui est cette nouvelle alliance de grâce qui est déjà promise à Abraham, qui est déjà annoncée à Adam et Ève dans ce qu'on appelle le proto-évangile. Vous savez ce que Dieu dit quand il trouve Adam qui s'était caché avec Ève et qui lui demande des comptes. Et Adam, super courageux, il dit « La femme que tu as mise à mes côtés m'en a fait manger du fruit défendu ». Sous-entendu, dans la phrase d'Adam, il y a deux responsables dans cette histoire, c'est Ève et Dieu. Mais Dieu n'est pas dupe, et il continue, il demande à la femme pourquoi tu as fait ça, et elle dit, c'est le serpent. Et donc Dieu arrive au serpent, et là, il y a la sentence qui tombe. Et cette sentence, c'est un message d'espoir, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Proto en grec, c'est une racine qui veut dire premier, qui précède. Vous savez, comme quand on fait un prototype dans l'industrie. Le proto-évangile, c'est la première trace de la grâce de Dieu que Dieu révèle. Il avait prévu la grâce de l'évangile dès la chute, dès avant la chute même, nous dit Éphésiens. C'était prévu de toute éternité en Jésus-Christ, mais là, il commence à le révéler aux hommes. Un encouragement pour Adam et Ève. Il dit qu'il y aura guerre entre la descendance du serpent et la descendance de la femme, mais que la descendance de la femme, elle va écraser la tête du serpent et que le serpent lui blessera le talon. En disant cela, Dieu prophétise ce qui se passe à la croix. Jésus, c'est la descendance de Ève. Et à travers la foi en Jésus-Christ, nous sommes la descendance de Ève. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset ? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Nous aussi, on écrase la tête du serpent, pas parce qu'on est fort. Tout seul face à Satan, on n'a aucune chance. Mais en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs parce qu'il a triomphé sur la croix et que cette victoire, où au prix de sa vie, il a triomphé de toutes les dominations qui étaient révoltées contre le Dieu créateur, eh bien cette victoire, elle est appliquée à nos vies. Nous y avons accès, malgré nos imperfections. Voilà cet esprit qui vivifie. Il est question, dans la deuxième partie du chapitre 3, de ce voile que Moïse devait mettre devant son visage. Parce qu'il était, quand il était dans la tente de la rencontre, eh bien, il avait son visage qui rayonnait, parce qu'il se tenait dans une manifestation de la présence de Dieu. Et au début, quand il est sorti sans voile sur le visage, lui, il ne savait pas que son visage rayonnait. Eh bien, le peuple d'Israël avait peur. Ils avaient peur de s'approcher de lui. Ça faisait peur de voir Moïse comme ça qui rayonnait. Du coup, il avait mis un voile sur son visage pour que, finalement, progressivement, son visage redevienne normal. Et ensuite, il ôtait le voile, et pour ne pas faire peur aux Juifs. Et Paul, il se sert de cet événement pour parler d'un autre voile, d'un voile symbolique. Ce voile symbolique, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est sur le cœur de tous les êtres humains, et en particulier de ses compatriotes juifs qu'il connaît bien. N'oublions pas que Paul, avant d'être un apôtre, c'était un pharisien qui a grandi dans l'enseignement de la synagogue. Aujourd'hui, on dirait que c'était un universitaire brillant, on aurait dit un docteur en théologie, spécialisé dans la théologie juive, et qui était zélé pour persécuter l'Église. Et donc, il connaît bien l'incrédulité de ceux qui prétendaient connaître la Torah par cœur, et qui la connaissaient probablement, et qui l'avaient mémorisée, mais qui, en même temps, ne discernaient pas l'essentiel. Et ils en restaient à la lettre qui tue, la condamnation de leurs péchés. Et ils pensaient avoir la vie en elle, mais ils ne voulaient pas accepter le Messie qu'elle annonce. Et donc, Paul, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un voile sur le cœur des hommes et des femmes qui lisent la Bible tant qu'ils ne discernent pas Jésus-Christ. J'aime bien lire, pas seulement la Bible, et même si la Bible, c'est le plus important de tous les livres, hein, mais... Il y a un auteur italien que j'aime bien qui s'appelle Eri De Luca, qui est un romancier brillant, très cultivé. Et en dehors des romans qu'il a écrits, il s'est intéressé à la foi juive et il a appris l'hébreu et il a fait comme une performance littéraire de traduire en italien, je crois que c'est le livre de Job. Et apparemment, c'est une traduction de très bonne qualité, mais lui-même n'est pas chrétien, n'est pas non plus croyant, même pas juif, on va dire. Il ne s'est pas converti au judaïsme, en tout cas... à ce jour, et il a dit « Je suis heureux d'avoir découvert ce texte qui est formidable, ce texte de la Bible, etc. Mais malgré tout mon savoir et ma connaissance, il me manque le plus important. Et ce plus important, c'est les croyants qui l'ont par la foi. » En étant enfant de Dieu, 5 secondes après votre nouvelle naissance et votre conversion, vous avez accès à l'esprit qui vivifie et qui fait en sorte que cette lettre n'est pas une lettre de mort, mais une lettre de vie. Et ça, vous avez des gens qui passent leur vie à étudier la Bible, soit dans les universités pour faire de l'archéologie, soit dans les synagogues, et qui ne discernent pas le Messie. Et ce que Paul est en train de dire, il ne s'en réjouit pas, mais il le constate, c'est que ces gens, sur les yeux, ils ont un voile qui les empêche de discerner l'essentiel du texte. Pourquoi ? Parce que l'essentiel du texte, le but de toute la Bible, c'est de nous faire rencontrer le Messie de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous enlevez Jésus-Christ à la Bible n'a plus de sens. Il ne reste qu'un Dieu créateur tout-puissant qui nous condamnera. Jésus-Christ, c'est la clé de compréhension de toute l'Écriture. Quand vous lisez un texte, demandez-vous, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ma foi en Jésus-Christ ? Je ne veux pas dire que dans chaque texte, on va trouver une allusion directe à Jésus, mais que c'est la clé de compréhension du texte. C'est à travers la foi en Jésus-Christ. Et c'est exactement ce que nous dit Paul là. Les cœurs, quand ils se convertissent à Christ, eh bien le voile est ôté. On comprend enfin la Bible. On comprend le vrai message. Et cette lettre n'est plus une lettre de condamnation et de mort, mais c'est la lettre qui est rendue vie en nous-mêmes par le Saint-Esprit. Je termine par un point et je conclue. Il y a dans ce texte quelque chose qui est souligné, c'est que c'est l'action souveraine de Dieu dans nos vies. Le voile est levé en Christ parce que c'est lui le but de la révélation, le Messie promis. C'est le Saint-Esprit qui nous libère, au verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voulez être libre ? Soyez chrétien. La seule véritable liberté dont parle la Bible, c'est pas celle qui permet de faire n'importe quoi, c'est celle qui fait de nous des serviteurs, des esclaves de Christ. Ça peut sembler paradoxal, devenez esclave pour être libre. Il y a un apologète anglais qui s'appelle Chesterton, qui était un romancier, il a écrit des romans policiers, et qui défendait la foi, et il disait aux gens de son époque, « Vous ne voulez pas avoir un maître, vous en aurez 10 000. Vous croyez que vous êtes libre quand vous n'êtes pas soumis à la foi en Jésus-Christ ? Vous avez 10 000 choses qui vous tyrannisent dans vos vies. » Les gens qui pensent être libres sans Dieu, sans Christ, sont en réalité esclaves de leurs mauvais désirs, leurs mauvais penchants, du monde qui les entoure, pour leur perte. L'œuvre souveraine de Dieu nous libère par l'action du Saint-Esprit, par l'œuvre de Christ, qu'on n'a pas mérité mais qui est appliquée à nos vies. Et regardez au verset 6, c'est Dieu qui nous rend capables d'être serviteurs. Ce n'est pas ma performance qui fait de moi un serviteur de Dieu, c'est Dieu qui me rend capable. Et les versets 4 à 6, notre capacité au contraire vient de Dieu. Et au chapitre 2 du verset 16, donc c'est un peu avant dans la lettre, cette lettre aux Corinthiens, pour cette mission, qui donc est qualifiée ? Paul y constatait que s'il avait dû compter sur ses propres forces, malgré toutes ses études théologiques, il aurait été disqualifié pour être un apôtre et pour être un serviteur de Dieu. Mais c'est Christ qui l'a rendu capable par l'action de son esprit. C'est la souveraineté de Dieu. Vous pensez que vous n'êtes pas capable d'honorer le Seigneur ? Mais vous avez raison, moi non plus. Mais c'est le Seigneur qui veut se glorifier dans nos vies. Est-ce que tout notre travail consiste juste à travailler à notre communion avec lui? Vous voulez servir le Seigneur? Aimez Jésus-Christ. Grandissez dans l'amour en Jésus-Christ. Puisez dans sa parole. Grandissez dans la foi. Vous allez le glorifier. Nous allons le glorifier. Parce que ça vient de lui. C'est voulu par Dieu. C'est accompli par Christ. C'est appliqué par le Saint-Esprit. Et cela aboutit à notre transformation pour produire des fruits dont l'apôtre Paul parle. Et cette transformation, elle n'est pas passagère comme la gloire qu'il y avait sur le visage de Moïse. Elle renvoie à des choses qui sont éternelles, des réalités invisibles qui nous conduisent jusque dans l'éternité. C'est pour ça que Jésus dit que quand on marche avec lui, on amasse un trésor dans le ciel, dans un endroit où les voleurs ne peuvent rien voler. Aux yeux de Dieu, on fait des choses qui sont précieuses à ses yeux, quand on se laisse transformer par le Saint-Esprit et qu'on honore notre Seigneur et notre Dieu. Et ça, c'est l'Esprit qui nous vivifie et qui nous rend libres. Est-ce que dans votre vie, vous êtes en paix parce que vous comptez sur l'œuvre de Christ ? Nous devons demander que notre Dieu nous remplisse de cette grande assurance qui est là dans sa parole, pour grandir dans la foi, pour l'aimer davantage et pour soumettre notre vie à sa volonté jusqu'au retour de Christ. Prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as libérés en Christ par ton Saint-Esprit pour nous faire contempler la gloire de notre Seigneur. Merci parce que par ton Esprit, sur la base de ta parole, tu nous transformes à l'image de ton Fils Jésus. Tout vient de toi. C'est toi seul qui peux accomplir ces choses. Mais dans ton amour et par ta grâce, tu nous les donnes et tu nous rends capables de servir ton Fils fidèlement. Donne-nous de ne pas résister au Saint-Esprit, mais de travailler de tout notre cœur à rester en communion avec Jésus-Christ. Fais-nous encore grandir afin que nous soyons fermes dans notre foi et remplis d'assurance pour l'Évangile de Christ. À toi soit toute la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen.